Bonjour, bienvenue sur La Madeleine, le podcast des émotions sucrées. Je suis Marion Tillou et je suis une grande fan de pâtisserie. Bec sucré depuis toute petite, j'adore en manger et en faire pour les émotions que cela me procure. J'ai d'ailleurs créé Honoré, une société qui propose des food tours de pâtisserie. J'adore observer la réaction des gens quand ils les dégustent et voir les émotions et les souvenirs apparaître sur leur visage. Alors avec ce podcast, j'ai décidé de vous montrer cette facette cachée de mes invités. Leur rapport à la gastronomie, leurs souvenirs sucrés d'enfance, quels gourmands ils sont devenus. Et comme j'aime bien me compliquer la vie, mes épisodes sont toujours enregistrés en présentiel, car il y a une petite surprise à chaque fois pour mes invités. Je vous laisse découvrir de quoi il s'agit, mais vous pourrez en savoir plus et accéder à des contenus exclusifs en vous abonnant à ma newsletter en bas de page du site honorezvousguide.fr. Bonne écoute! C'est pendant le premier confinement de 2020, et à l'occasion du lancement de sa marque de chocolat Carré Sauvage, que j'ai rencontré Laure Manessier à travers un écran de téléphone. Depuis, de nouveautés en partenariat avec des marques plus belles les unes que les autres, Laure a pris sa place dans le monde du chocolat Bean to Bar en y apportant une dimension santé et bien-être. Vous allez l'entendre, Laure est quelqu'un de passionné dont la curiosité pour le chocolat est venue d'un projet d'étude qui a planté une petite graine. Elle est également très pointue sur les ingrédients et leurs bienfaits pour notre corps, même si elle n'en oublie jamais la gourmandise. Bonne écoute. Salut Laure.
Salut Marion, ravie d'être là avec toi ce matin.
Tu vas bien ?
Très bien.
Bon, je suis ravie que tu me reçoives dans tes bureaux du 9e arrondissement. On est dans un bel espace très cosy, avec plein de bonnes ondes, de plein de belles marques. Tu vas nous raconter peut-être ça un petit peu tout au long de cette interview. Alors, pour commencer, ma question un petit peu traditionnelle et pas très originale, je vais te demander de te présenter qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais.
Ouais, c'est vrai que c'est toujours une question vaste et qu'on peut aborder par plein d'angles. Donc, je m'appelle Laure, j'ai 28 ans. J'ai grandi entre Paris et la forêt de Compiègne. Je le dis parce que c'est vrai que la nature, finalement, être entourée de nature, c'est sûr que ça a un impact et que ça joue aujourd'hui dans ce que je fais. J'ai 4 frères et sœurs et en parcours scolaire, j'ai fait une école de commerce et juste après, donc, cette classe prépa à école de commerce. Et mes stages dans des secteurs très variés, aussi bien en contrôle et gestion chez L'Oréal que dans la restauration à New York et en merchandising chez Chanel. J'ai lancé Carré Sauvage en 2020. Voilà, peut-être qu'on présente oui. Après.
Alors, Carré Sauvage, allez, dis-moi, Carré Sauvage, parce qu'il y a toujours un petit rapport quelque part avec de la gastronomie. Et effectivement, donc Carré Sauvage, ce ne sont pas des carrés de soie sauvage.
Non, mais c'est le carré pour un carré de chocolat et sauvage pour ce côté brut, naturel. Et donc, c'est une marque de chocolat que j'ai lancée en 2020. Et il y a plein de fils conducteurs dans mon parcours qui m'ont mené à ça. Le fil de Carré Sauvage, c'est se faire du bien en mangeant du chocolat. Donc, c'est un chocolat qui a 3 piliers. Bon au goût, évidemment, il faut que ce soit gourmand, c'est du chocolat. Bon pour le corps, et c'est là où ça change, parce qu'on est habitué à avoir un chocolat gourmand, mais pas forcément avec une connotation healthy. Et en fait, la fève de cacao, c'est hyper bon pour la santé. Donc je me disais, mais pourquoi le chocolat, c'est pas hyper bon pour la santé? Et en fait, c'est vraiment une façon de le travailler, où la fève, je travaille déjà à partir de la fève de cacao, et t'as que 5% en fait, des chocolatiers qui travaillent directement à partir de la fève, sinon tu reçois des blocs de Valrhona, Barry Calbo, du chocolat déjà fait que tu fonds après en bonbons, en tablettes.
Et toi, c'est du bean to bar.
Donc c'est du bean to bar, donc je sélectionne les fèves, et je les travaille à basse température, c'est pour ça qu'on parle de chocolat cru, je fais pas de torréfaction, je travaille la fève à basse température, et ça c'est l'idée de garder un maximum d'antioxydants, de vitamines et de minéraux, parce que la fève en fait, elle est très riche en nutriments. Et j'ajoute aucun sucre blanc raffiné, ce qui fait mal en général en chocolat classique. Ça sera que des sucres complets à faible indice glycémique, et donc une manière très épurée de le faire. Et puis ensuite, on peut aller très loin parce qu'on peut jouer avec des superfoods. Où là, j'ai une dernière collection qui est en focus beauté, où là, tu vas retrouver du collagène, des probiotiques, des plantes adaptogènes, vraiment l'univers beauté holistique. Mais donc, si je reprends les 3 piliers, bon au goût, donc bien-être, mais garder cette approche gourmande, gustative, une expérience sensorielle, bon pour le corps, donc nutritif, et bon pour la terre, donc faire ça aussi avec une approche durable. Et typiquement, ce que j'aime bien, c'est que le packaging, les gens l'achètent parce qu'ils le trouvent cool, mais c'est un papier qui est 100% recyclé, qui est imprimé à l'encre végétale, et c'est un pliage pour éviter les collages, et à l'intérieur, c'est pas une pochette en plastique, mais c'est de la pulpe de bois qui enveloppe la tablette. Donc voilà, tu as ma guideline, et l'autre façon aussi de le résumer, c'est réconcilier deux choses qu'on a tendance à opposer et qui, pour moi, marchent parfaitement main dans la main, qui sont bien-être et gastronomie, et luxe et développement durable. Pour moi, tout ça marche en synergie, et quelque part, c'est l'avenir, en fait.
Et ça, c'est la mission de Carré Sauvage, d'essayer de réconcilier des mondes qui paraissent peut-être un peu
totalement
opposés au départ. Quoi.
Ouais, mmh. la mission vraiment de base, c'est se faire du bien en mangeant du chocolat. Et en fait, ça comprend tout ça.
Mmh. Et alors, ça t'est venu d'où cette envie? Alors, parce que tu m'as parlé de, enfin, finalement d'études assez classiques, on va dire, école de commerce, et puis après travailler dans des grands groupes, etc., partir à l'étranger. Qu'est-ce qui a fait, alors, est-ce que c'est le confinement, le Covid en 2020? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de basculer?
Ouais, non, en fait, le Covid est venu complètement au hasard. Mais en fait, donc, il y a plein de petits éléments. Il y a un premier, j'avais fait mes TP au lycée sur les bienfaits du chocolat. Et de base, on avait fait ça plutôt pour rigoler avec des copines. Mais mine
le
de
choix
rien,
sympathique.
Ouais, voilà, c'était pour manger du chocolat, en fait. Mais mine de rien, en fait, ça avait planté une petite graine de « Ah, en fait, le cacao, c'est bon pour la santé. » Mais attends, je comprends pas, du coup, le chocolat, pourquoi c'est pas super bon pour la santé? Je suis partie, comme tu as dit, pour mes études, je suis partie en stage à New York. Et là-bas, il y a vraiment tout le courant bean to bar, travaillé à partir de la fève de cacao qu'on n'avait pas encore en France.
Un qui peu est plus comme... développé qu'en
ouais,
France.
Qui est beaucoup plus développé, c'est vraiment reparti de là-bas, c'est assez drôle. C'est assez rigolo parce que c'est un truc des Américains qui, sur beaucoup de choses, sont à la fois avant-gardistes et parfois dans les extrêmes. Où typiquement, tu vas avoir un magasin bio et des gros bidons en plastique. Enfin, un peu, tu vois, ce genre de paradoxe. Et donc, le bean to bar, le fait de retravailler à partir de la fève, vraiment à partir de là-bas, où en fait, historiquement, tout le monde faisait comme ça. Et c'est avec les deux guerres mondiales où les chocolatiers ont arrêté de faire du chocolat. Et ça s'est, en fait, regroupé où il y avait les gros fabricants qui faisaient du chocolat.
Les couvertures.
Et ensuite, voilà, les gros couvertures. Et ensuite, les petits artisans qui achetaient du chocolat de couverture et fondaient, se concentraient sur faire des bonbons, du praliné, de la ganache, fondre de la tablette, mais ne faisaient plus le chocolat. Moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, il y a deux choses. Déjà, je voulais faire du chocolat cru parce que ça, je l'avais aussi redécouvert à New York et en Angleterre où il y en a beaucoup et très peu en France, où il y avait vraiment ce côté chocolat super aliment, garder les nutriments de la fève et peu transformé. Et cet aspect, en fait, avoir la main sur tout le sourcing, choisir chaque ingrédient, et en fait, on peut jouer après la musique qu'on veut. Mais il y a aussi une histoire personnelle où j'ai eu un passage dans la mode entre ma classe prépa et mon école de commerce qui sont assez drastiques en termes de régime alimentaire, où je me suis, en fait, posé beaucoup de questions de qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas dans mon régime, qu'est-ce que je peux améliorer. Et l'impact, je l'ai vu tout de suite aussi, je faisais énormément de sport, de compétition à ce moment-là, sur ton athlétisme, selon comment je m'alimentais, la performance, comment je me sentais. Et à ce moment-là, j'ai arrêté, en fait, de consommer du sucre blanc raffiné. Et le chocolat, typiquement, c'était un produit qui était connoté très gourmand, mais dont j'avais pas envie de me passer dans mon quotidien. Et j'arrivais pas à trouver un peu la petite marque, le chocolat que j'avais envie de consommer. Et il y avait du chocolat bio, cru dans les magasins bio, mais pas forcément ultra sensoriel, packaging craft, et pas forcément beau en goût.
C'est vrai que ça donne pas forcément envie, les magasins bio. C'est pas dans le plaisir, en fait.
Ouais, là-dessus, à l'époque, pas forcément. Et de l'autre côté, il y avait des chocolats de grands chocolatiers qu'on t'offre souvent, et en fait, le sucre blanc raffiné, je supportais plus, dans le sens, tout de suite, je sentais que ça me donne, encore aujourd'hui, ça me donne mal au ventre.
D'accord. Donc, toi, tu ne consommes plus du tout de sucre raffiné.
C'est le seul truc, tu vois, à cette époque-là, j'étais carrément, je consommais beaucoup moins, voire plus de produits laitiers, viande, etc., ce que je mange aujourd'hui, j'ai, pour le coup, moi, aucune intolérance au gluten ou autre. Mais par contre, le sucre blanc raffiné, si tu me donnes un chocolat classique ou autre, je le sens tout de suite.
D'accord, donc tu utilises plutôt des alternatives, même pour d'autres choses que...
T'en as plein, oui, moi j'utilise souvent le sucre de fleur de coco ou de fleur de palmier dans les chocolats. Tu peux utiliser le sucre de date, ça je ne l'ai pas encore fait dans les tablettes, mais tu peux utiliser aussi le sucre d'érable, des plantes comme la maca et le lucuma qui sont hyper énergisantes et en plus vont avoir des petites tonalités de caramel. T'as plein de choses et donc c'est rigolo parce que justement t'as deux ingrédients dans le chocolat, la fève. Enfin, de base, hein, vraiment, pour faire du chocolat, il n'y a besoin que deux ingrédients, la fève et le sucre. Et en fait, la fève, déjà, elle est multiple en elle-même parce qu'il y a plus de 200 notes dans le cacao, donc encore plus, en fait, que dans le vin. Et ça, on le sait très peu. En général, on a un goût unique chocolat en tête. Mais ça, c'est parce que dans l'industrie, en fait, on cherche de l'uniformité dans le goût.
Oui, on ajoute de la vanille.
Ouais,
même dans les chocolats de couverture.
C'est pas de la vanille, c'est de la vanilla. Donc, c'est un arôme vanille.
Ouais.
C'est rare d'avoir.
Couvre un peu les erreurs de la torréfaction, quoi, bien souvent.
Ouais, aussi, la surtorréfaction, les fèves un peu brûlées, en fait, aussi, ça permet de masquer les défauts, si la fève en a, et puis d'avoir toujours cette uniformité, la même chose dans le goût. Et donc, le deuxième ingrédient, le sucre, en fait, on peut aussi bien jouer dessus. Il y a un panel large. De sucre possible. Et puis ensuite, vient tout ce qu'on peut, là où c'est vraiment infini, c'est tu peux jouer sur les épices, les purées de la gineuse, faire un jandouja, les fleurs.
C'est vrai qu'il y a une grande diversité des chocolats que tu peux proposer parce que c'est souvent des chocolats avec un petit plus, une épice, une petite fleur. Donc, une gamme qui évolue beaucoup. T'as une... Ouais. À chaque fois que je te rencontre, il y a une nouvelle gamme. Je me dis...
C'est vrai. Mm. Et je pense qu'on peut même spoiler la nouveauté qui va arriver ce week-end, parce que le temps que
le podcast sorte,
elle sera sortie,
ouais.
Et donc, effectivement, moi, aujourd'hui, j'ai une collection permanente qui est très courte, où dedans, tu vas avoir les tablettes classiques, où t'as un grand cru en noir épuré, pécan tonka, où dedans, t'as de la purée de noix de cajou, de noix de pécan et de la fève tonka, qui va avoir un côté crémeux et très doux, un peu un côté lait végétal, donc il est très accessible en très rond, crunchy, qui avec un topping du sobacha, du sarrasin torréfié, des raisins secs. Et bientôt dans la collection, il y aura brebis, elle s'appelle Tendresse, c'est une tablette au lait de brebis qui va donc remplacer après crunchy, et celle-ci que j'avais fait beaucoup en éphémère et que les gens adoraient, parce qu'il y a un côté, le lait de brebis en fait est plus digeste que le lait de vache, et c'est un dark milk, t'as plus une teneur en cacao plus forte.
Oui.
Un chocolat au lait classique, et c'est hyper onctueux.
C'est quand même suffisamment doux, et il y a assez de pourcentage de cacao quand même pour les fans de cacao.
Ouais, en fait c'est chouette parce que c'est un chocolat pour le coup qui plaît à tous les âges, autant les enfants que les amateurs de chocolat noir. Et en fait, dans l'ordre en composition, tu as la fève de cacao, le lait de brebis et le sucre en troisième. Le problème, en fait, dans les chocolats au lait, tu as souvent le sucre en premier. Et tu n'en as pas besoin, forcément.
Oui, il y a quand même, enfin, faut le rappeler, pas mal de chocolats du commerce, de la grande distribution, où le premier ingrédient, même, c'est le sucre.
Ouais.
Bien avant la fève de cacao. Donc, ça, c'est le truc, c'est un peu la base qu'on peut rappeler, c'est qu'il y a du vrai chocolat. Déjà, ça devrait toujours commencer par fève de cacao, quelle que soit peut-être la façon dont c'est processé, mais déjà, ça devrait être le prérequis de base.
Et c'est intéressant aussi. D'ailleurs, fève en indicatif, parce qu'en général, quand les gens mettent le mot fève, normalement, c'est qu'il est travaillé justement en bento bar à partir de la fève.
Sinon, c'est pâte de cacao.
Voilà, on a la pâte de cacao. Mm. Ouais, si je reboucle sur la collection, donc cette collection dite classique, il y a le trio beauté qui vient d'arriver début septembre, où c'est des tablettes dites beauty food, où donc il va y avoir skin qui est pour l'éclat de la peau avec du collagène, camu qui est très riche en vitamine C, des plantes adaptogènes, gut aux probiotiques pour la digestion.
D'accord. Et ça, c'est toujours la collection Carré Sauvage, c'est pas un partenariat.
Non, à l'exception, là, c'est vraiment collection propre, collection permanente.
D'accord.
Avec une petite nuance sur Hormone, qui est pour l'équilibre hormonal, qui, lui, je l'ai fait avec la chef Claire Charine Roberto. Et c'est vraiment l'histoire de notre compte, parce que moi, j'étais partie plutôt sur une troisième aux plantes adaptogènes pour le stress. Mm-hmm. Et Claire voulait qu'on fasse quelque chose ensemble aux plantes adaptogènes. Et cette histoire d'équilibre hormonal, en fait, c'est son histoire, celle qui m'a fait découvrir le shatavari, qui est une plante qui accompagne la femme dans tous les âges, aussi bien à l'adolescence pour l'acné, que pendant l'allaitement pour la production de lait, que pour la ménopause. Donc c'est assez fou aussi tout cet univers des plantes, et ce que je trouve génial avec le chocolat, c'est que on peut très bien jouer avec des actifs, des super éléments comme ça, ça se prête très bien au jeu. Et donc là, c'est une collection très pointue, où c'est vraiment avoir la dose quotidienne d'actifs recommandée dans un carré.
Mmh. Avoir une bonne excuse de manger un carré de chocolat. Mais c'est vrai que tu t'arrives à faire rentrer, du coup, avec le chocolat, prendre des compléments alimentaires. Parfois, ça peut être vu un peu comme « je me prends des... » Mais si j'ai lu le matin toutes les couleurs, ce côté un peu alimentation artificielle qui n'est pas forcément très sympa et qu'on a peut-être tendance à abandonner. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a un vrai gros courant d'insérer des bonnes choses pour notre corps dans des choses à consommer, des lattés, des choses comme ça. Et là, le chocolat, du coup, c'est le super prétexte. On n'a plus aucune excuse pour ne pas prendre ses compléments alimentaires, quoi. Et plus aucune, ennui à le faire, quoi.
Donc, non, mais totalement. Moi, je crois beaucoup à l'alimentation alicament ou la restauration, même si on élargit le terme. En fait, de base, c'est restaurer un corps.
Ouais.
Et donc, c'est vraiment ça. C'est prendre du plaisir, parce que pour moi, c'est un plaisir quotidien. Les repas, c'est une fête. Et oui, et se nourrir, se donner de l'énergie. Et en plus, surtout en France, c'est aussi un moment qui est connoté, qui est très convivial, un moment de partage. Donc voilà, tout ça.
Mais c'est drôle, c'est intéressant, parce que j'ai une diversité, en fait, des personnes que je reçois dans ce podcast. Et il y a des gens, pour le coup, pour eux, le sucre n'est pas du tout quelque chose qu'ils ont enlevé de leur alimentation. Mais le point commun que vous avez, c'est des versions très différentes de l'appréhension de la gourmandise. Mais néanmoins, vous avez tous et toutes en commun le côté partage, plaisir de l'alimentation. Et pas uniquement je m'alimente, j'alimente mon corps. T'as rajouté aussi cette dimension. Mais c'est très varié, parce qu'encore hier, on parlait de pas diaboliser le sucre, tu vois. Ouais. Et ça m'intéresse, du coup, de comprendre
ta démarche. Parce qu'il y a bien du sucre. Il y a bien du sucre. Simplement, en fait, ce qu'il n'y a pas, c'est du sucre blanc raffiné. Ouais. Lui, des calories vides et inflammatoires. Mais en fait, il y a le sucre des fruits, il y a du sucre de fleur de coco. Oui. En fait, c'est simplement du sucre complet. à faiblement indice glycémique ou des alternatives sucrantes. Mais donc, c'est bien sucré, mais c'est une autre version du sucre et c'est hyper intéressant parce que même, c'est rigolo parce que, en fait, moi, chez moi, je suis sucrée dans le sens où je me fais beaucoup de desserts, des granola bowls, des smoothies, trucs. Mais c'est vrai que je prends rarement des desserts à l'extérieur ou souvent, je peux être déçue. Enfin, ça peut être pas mon. Ou ça peut être pas forcément prendre plaisir à.
Parce que c'est trop à l'opposé, finalement, en termes de produits.
Ou ce côté sucré. Mais c'est vrai que c'est hyper drôle aussi quand tu m'as invité sur ce podcast. Parce que, historiquement, en fait, de base, moi, je suis pas forcément très bec sucré. Et de fait, je le suis devenue parce que mon quotidien aujourd'hui, c'est le chocolat. Mais oui, c'est encore un univers. Mais, et attention, effectivement, dans les paramètres, c'est bien la gourmandise. Quoique, je précise, quand je parlais du trio beauté, cette collection beauté, pour le coup, c'était très fort teneur en cacao.
D'accord, donc moins sucré.
Moins sucré.
Ok. Du coup, j'imagine que toi, c'est un peu. Enfin, tu dois avoir une façon d'appréhender aussi les pâtisseries classiques avec ton prisme, du coup, de tout ce que tu connais sur les plantes adaptogènes, sur les sucres alternatifs, qui font que peut-être c'est comme quelqu'un qui serait très technique dans le vin ou très technique dans la bière. Bah, on va plutôt prendre la bière parce que le vin. Tout de suite, on tombe dans des trucs très, très mauvais. Mais par exemple, quelqu'un qui est dans la bière, il y a vraiment maintenant tout un panel de choses très pointues et d'autres choses tout venant et qui aurait du mal, du coup, à aller boire une bière classique dans un festival de musique, un truc comme ça, alors qu'il a l'habitude de boire des bières de microbrasserie. Donc, comment tu...
Mais c'est vrai, en fait, ce que tu dis, c'est terrible. En fait, enfin, c'est vrai, tu vois, le corps, en fait, s'habitue, entre guillemets, à la qualité, à citer... Clairement, t'y prends goût.
Ouais.
Goût. Mais par contre, ce que je trouve génial aussi, c'est que la gastronomie évolue. Et récemment, j'ai rencontré une chef hyper chouette qui s'appelle Johanna Le Pape, qui est championne des arts sucrés. Spoiler, mais donc, il y a beaucoup de choses aussi qui se préparent ensemble. Et tu vois, je trouve ça génial parce qu'elle, typiquement, elle a pris son tournant il y a 7-8 ans sur la pâtisserie saine, alors que historiquement, elle vient de la gastronomie de Palace et que c'était pas du tout au goût du jour. Et je me dis, waouh, mais comment ça se fait aussi qu'il n'y ait pas en fait plus de personnes encore dans la gastronomie qui soient alignées avec ça en fait, pour nous, ça nous paraissait naturel en fait.
Elle a sorti son livre il n'y a pas très longtemps sur le sujet. Ouais. Il y a aussi, alors si on retourne vers les couverturiers, mais chez Valrhona, il y a Frédéric Beau aussi qui a sorti un livre sur la gourmandise raisonnée, des alternatives, faire des ganaches avec de l'eau, une partie d'eau, etc.
Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses. En plus, on va y aller. Et même des Ducasse qu'on verra, des sapides, des adresses autour du végétal. Ouais.
Mais on reste toujours quand même là dans une gamme de prix qui ne s'adresse pas à tout le monde encore.
Ouais. Et c'est vrai, tu vois, typiquement, moi, le positionnement de ma marque, au départ, je ne voulais pas forcément quelque chose d'extrêmement coûteux. Je viens d'une famille nombreuse j'ai grandi dans une bulle plutôt privilégiée, mais quand même, mes parents font attention au coût. Mais en fait, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'à partir du moment où tu cherches des ingrédients de la meilleure qualité possible et où tu fais tout artisanalement à la main en France, tout de suite, en fait, c'est un coût. Et puis, si tu rentres aussi dans le circuit de la distribution, il faut aussi la marge du distributeur qui, très clairement, moi, au départ, je ne l'avais pas calculé. Mais donc, de facto, j'ai clairement eu en fait, une marque, une gamme qui a un positionnement luxe.
Oui, non, mais je pense que ça commence comme ça. Et puis après, il y aura certainement aussi d'autres marques qui se positionneront peut-être entre les deux. Et en tout cas, ça fera avancer. C'est souvent le luxe qui amène les nouveautés et les tendances. Donc, on te le souhaite que ça se popularise de plus en plus. Mais bon, depuis 2020, tu as fait un beau chemin parce que moi, je t'ai connue avec le crowdfunding. Ouais. Alors, c'est encore le hasard des rencontres de la vie. Si je rembobine un petit peu, c'est parce que on avait une prof de gym en commun, Jen. Vous aviez monté une offre ensemble dans ton crowdfunding d'achat de tablettes et de cours de gym avec elle. Mais voilà, donc moi je t'ai connue sur. Alors c'était Ulule
ou Kiss Kiss Bank Bank.
Non mais je préfère. J'ai aussi fait ma campagne de crowdfunding chez Kiss Kiss Bank Bank. Et voilà, c'est comme ça que j'ai connu tes chocolats via Jen. Et en plus, après, en discutant, on s'est rendu compte que
t'as avec une de mes tantes.
Ouais, voilà, le truc improbable. Mais tu connais un tel ? Mais oui, évidemment. donc voilà, c'est un peu ça quand les planètes s'alignent et les belles rencontres, c'est chouette. Donc voilà pour la petite histoire. Alors tu m'as parlé de ton parcours. Est-ce que Alors du coup, peut-être que tu auras une réponse différente. Est-ce que toi, tu te définis comme quelqu'un de gourmand ? Et si oui, enfin, quel est ton rapport à la gastronomie ? Donc tu me parlais un petit peu de plutôt salé à à la base?
Bah écoute, je pense que c'est un oui franc en fait.
Ouais.
C'est un oui franc. Moi, j'adore explorer en fait la nourriture, la variété et aussi d'autres cultures parce que je me dis qu'il y a toujours plein de choses à découvrir. Et donc oui, gourmand dans le sens, j'adore découvrir de nouvelles choses, j'adore manger. Là, trop tard, j'ai un cours de sport, mais c'est très vertueux cette histoire. On va encore mieux manger derrière.
Ouais.
Et ouais, mais d'ailleurs, en sucré salé, là, il y a une dernière adresse que j'ai testée, le fameux dattil de Manon Fleury, délicieux, la glace à la figue. Et il y avait une glace à la figue aussi qui était une tuerie à Food Temple.
Oui, on s'est vu il n'y a pas longtemps. Ouais.
Donc, non, oui, définitivement.
Donc, t'aimes bien découvrir des choses. Tu voyages beaucoup pour Carré Sauvage, du coup, pour les fèves et
Non, pas tellement. Pas assez encore pour Carré Sauvage, mais pour d'autres activités, notamment là avec un groupe d'amis qui a fait un groupe tourné vers le soleil, les voyages, qui s'appelle le Solar Club, où c'est vraiment des moments de reconnexion et qui est génial quand t'es entrepreneur. Et donc demain je pars au Maroc et là je suis aussi hyper contente parce que typiquement c'est une gastronomie que je connais très peu, voire pas.
Oui. Où le chocolat n'est pas très présent.
Non, je pense pas. Mais
à cause
tu vois,
des températures,
des épices aussi, où tu peux avoir du sucré salé, où tu vas retrouver de la cannelle dans un tagine ou des choses comme ça. Je trouve ça hyper inspirant et tu peux prendre des inspirations de partout. Typiquement, la tablette Agapimou que j'ai fait avec Aurélia Del Sol, c'est autour de la graisse ou dans du chocolat. Tu vas avoir de l'huile d'olive, des épices zaatar et de l'olive noire. Tu
D'accord,
l'attends pas.
Ouais.
Mais c'est hyper drôle parce que l'olive noire, pour la goûter en glace, t'as des petites notes de cacao dedans.
Ça marche très bien, oui. Il y a comme ça des fruits très mûrs qui peuvent être super intéressants. Donc une gourmande de découverte.
Ouais, gourmande, mais même moi, je dirais gourmande point, en fait.
Ouais.
gourmande point et ouais, avide de la vie, avide de découverte.
Donc plutôt curieuse en gourmandise.
Ouais, totalement. Que curieuse. Et puis, évidemment, après, quand t'as tes Madeleine de Proust, tes favorites, t'y retournes.
D'accord. Donc, une alternance entre de la curiosité et après, quand même, quand il y a des choses qui te plaisent, tendance à reprendre ces choses-là. Il y a quand même des choses que tu
forcément,
répètes.
Forcément, tu vois, t'as toujours tes basiques, un peu. T'es basique et puis parfois t'en ajoutes, parfois t'en changes.
Il y a des choses que tu, systématiquement, que tu, par exemple, où tu vas retourner, une pâtisserie où tu vas toujours, ou si tu vas dans des pâtisseries, parce que peut-être que du coup c'est un peu plus compliqué de trouver ce qui te plaît.
C'est vrai que j'y vais moins. Là j'ai trouvé une boulangerie géniale juste à côté du bureau, mais c'est le pain aux olives que je trouve génial.
Ça s'appelle comment ?
Ça s'appelle Gabin dans le pétrole.
Ah oui, je suis passée devant.
Bah, je te recommande le pain aux olives.
Bon, je vais aller faire un tour.
Récemment, il y a ma cousine qui m'a fait redécouvrir le riz au lait. Je pensais que je n'aimais pas ça. Et riz au lait, justement, de brebis, je trouve ça délicieux. Hyper réconfortant. Après, au quotidien, dans les desserts, c'est vrai que moi, je suis plus, par exemple, smoothie. Ou par exemple, hier, je me suis fait une crème cacao que j'adore, qui est hyper simple, où tu mixes, en fait, des bananes, dattes. J'ai une poudre de cacao qui s'appelle Aura, où dedans, t'as du cacao cru, de la maca, de la lucuma et du collagène marin. Ça, avec un lait végétal. Et de la purée, pardon, de cacahuètes, peanut butter.
Pour le petit côté gourmand.
Ou celle que tu veux, tu vois, plus de noisettes, plus d'amandes, c'est super bon. Donc ouais, dans les très bonnes pâtisseries coup de cœur à Paris, il y a Tapisserie, tu connais.
Oui, on mettra l'adresse.
Ouais.
Dans le 11e et dans le 7e, ils en ont deux maintenant.
Oui, ils en ont deux maintenant. Aura, enfin, là je change de thématique dans la version healthy, dans la version saine. Donc Vanna qui partage des bureaux avec moi, elle a un juice bar, mais les bols sont hyper bons avec le petit granola, les toppings, etc.
C'est une autre forme de...
C'est plus dans la...
C'est le dessert, c'est le côté sucré, mais on n'est pas dans la pâtisserie, dans le sens où pâtisserie à pâte.
Ouais.
Et c'est un peu la définition aussi d'une
c'est
pâtisserie.
Intéressant, c'est intéressant, tu vois, moi je ne connaissais pas la définition de pâtisserie, dedans il y a pâte.
Il y a quand même ce lien avec les tartes, les gâteaux, les choses comme ça. Et oui, je rangerais plutôt les smoothies, ce genre de choses dans les desserts.
Ouais.
Effectivement, mais moins dans les...
Les pâtisseries, donc les croissants, il n'y a pâte, ça rentre dedans.
Oui, ça rentre, la viennoiserie.
Tu vois, les croissants, viennoiserie, c'est un truc que j'ai arrêté. Et par contre, tu vois, la version avec du levain.
Oui.
Très bon.
Très, très bon. Alors, tu as arrêté les viennoiseries, etc.
En général, sauf pareil sur le pain, en fait. Un pain, blé ancien, levain, je trouve ça génial, hyper bon. Et versus un industriel, je vais pas prendre de plaisir et je vais le sentir. Enfin,
mais c'est vrai que ce travail, il a été fait sur le pain, en fait, de Alors, il y a toujours des gens qui consomment de la baguette blanche, pas cuite, etc. et qui après se demandent pourquoi ils vont avoir mal au ventre derrière tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a un gros travail qui a déjà été fait par les boulangers par rapport au levain, aux farines anciennes. Et ça continue toujours. Mais c'est peut-être un peu, on pourrait comparer ça à la démarche que tu as versus le chocolat de grande distribution, quoi.
Ouais. On pourrait faire mais ce c'est parallèle. Vrai que, tu vois, j'ai repensé la pâtisserie, vraiment, tu vois, pâtisserie standard, classique, etc. J'ai pas tant que ça, tu vois, de bonnes adresses, de trucs qui me viennent en tête. Je demandais justement à Johanna si elle avait une adresse, mais elle, actuellement, elle fait plus du consulting. Mm. Mais c'est vrai qu'on a encore peu d'adresses. Tu vois, si je pars sur vraiment une pâtisserie élaborée et saine, oui, encore c'est pas... peu de propositions. Enfin, c'est vrai que je suis pas encore une assidue finalement des pâtissiers, mais je suis sûre que si on fait un faux tour ensemble, je vais découvrir plein de pépites.
Donc déjà, j'en ai une, Maison Plume, qui est dans le dans le Marais, qui est sans gluten, index glycémique bas, et qui travaille avec des produits très sympas et qui n'a pas une démarche de copie de la pâtisserie, en fait, qui créer ses propres gammes avec des produits adaptés à sa clientèle, en fait. Et c'est ça que je trouve plus intéressant que d'essayer, par exemple, de refaire des croissants sans gluten. En fait, non, ça marche pas très bien. Donc, essayez plutôt de faire d'autres choses, quoi. Tu vois, mais,
totalement. Totalement. Après, tu vois, qui me viennent en tête, c'est plus des amis chefs, mais qui font plutôt du catering que pâtisserie, comme Jennifer Hartsmith, Kaitlyn Reinhardt. Et il y en a beaucoup dans la foulée qui font des choses très chouettes.
Oui. Et c'est vrai que c'est, entre guillemets, un petit peu plus simple quand c'est du dessert à l'assiette. De travailler avec toutes ces contraintes que tu peux avoir de certains produits, de produits que tu veux pas avoir, alors qu'une pâtisserie dans une boutique, il faut que ça tienne.
C'est ça.
Il faut que ça tienne quelques heures dans une vitrine, que ça puisse être emporté. C'est vrai que le champ des possibles pour les pâtissiers de restaurant, il est plus grand que pour les pâtissiers de boutique. Mais il se passe des choses quand même, grâce à. Typiquement, Johanna Le Pape. On peut citer aussi Jessica Préalpato, qui a aussi une démarche. Différentes du produit, quoi. Des femmes, je sais pas si tu vois le...
Ouais.
Il se passe quelque chose, quand même. Petit aparté. Alors, du coup, la gourmandise, on a tendance à dire, et c'est un proverbe, que c'est un vilain défaut. Comment tu vois ça?
Du coup, moi, forcément, je suis pas d'accord.
Évidemment. J'ai rarement des gens qui me disent oui, et on va s'arrêter là. Dans la conversation.
Bonne journée, Marion.
Ouais, voilà, c'était sympa ton podcast.
Non, tu vois, typiquement, moi, c'est justement mon fil conducteur opposé de faire quelque chose de gourmand et qui est sain et qui est bon et qui n'est pas un vilain défaut du tout. Au contraire, on part sur le trio beauté. Il faut que tu n'oublies pas ton carré de chocolat au moins tous les jours.
T'as pris ton chocolat ce matin?
Voilà.
Ce serait tellement génial que tout le monde fasse ça.
Oui, je sais pas, tu vois, d'où vient justement, je me demande pourquoi ce proverbe.
Il va falloir que je creuse parce que je pose cette question à chaque fois et d'où ça vient ce truc de... Bon, après, il y a aussi toute une notion, tu sais, de se faire du mal, de se contraindre, il faut souffrir pour être belle.
Au contraire, tout faire dans le plaisir.
Oui, c'est quand même vachement mieux.
Et que ce soit win-win.
Voilà, en train de changer un peu de philosophie.
Pas de compromis, moi, c'est plutôt ma philosophie.
Ok.
Se faire plaisir et que ce soit une bonne qualité.
Ok, bon, c'est un bon message. Alors, tu m'as dit que t'avais 4 frères et sœurs. Est-ce que tu peux me parler de toi, petite, la petite Laure, est-ce qu'elle était déjà gourmande? C'était quoi ces petits craquages? Comment t'étais petite et ado aussi?
Petite, en fait, j'étais plutôt joueuse et expiègue. Moi, j'étais plutôt... on m'a toujours dit que j'étais un garçon manqué. Donc, avec ma cousine Hélène, donc la fille de la tante que tu connais, on était toujours à faire les 400 coups ensemble, toujours dehors, moi, grimper dans les arbres, faire des parcours. Mes grands-parents avaient un grand jardin, donc on se faisait nos parcours, j'allais dire du combattant, mais casse-cou, quoi.
Ouais.
beaucoup de sorties dehors, en vélo, marche. À Saint-Jean-au-Bois, du coup, dans cette maison qui est toujours un peu le bastion familial qui est au milieu de la forêt, c'était plus là, pour le coup, autant, tu vois, je réfléchissais aussi comme je savais qu'on allait se voir ma mère, la cuisine, au départ, tu vois, on était 3, c'était Picard. C'était pas trop cuisine. Et au fur et à mesure, elle s'est mise à la cuisine en étant 5. Plus sur le sucré, sur le salé que le sucré.
D'accord.
Parce que le sucré, on rigolait avec ma sœur le jour parce que le gâteau au chocolat, typiquement, c'était un étouffe chrétien, quoi. C'était...
Okay,
il y avait beaucoup de farine dedans, je crois, et des grumeaux, mais on se demandait, mais comment est-ce que t'es arrivée à faire ça? C'était vraiment quelque chose. Mais par contre, tu vois, c'est les cueillettes de champignons en forêt, voir les fruits et les légumes pousser, Et ouais, donc un contact fort avec la nature. Et oui, la table, c'est un moment où bah, tous les 7, le soir, tu te retrouves.
Oui, c'est des grandes tables et tout de suite, 5 enfants.
Tout de suite, et hyper chouette aussi, parce qu'on pouvait sans problème inviter des copines quand on voulait. En fait, une de plus, une de moins. Oui.
Ça, c'est chouette, ouais, effectivement.
Et ça, c'est hyper chouette, parce que c'est vrai qu'on pouvait vraiment, là-dessus, ça a toujours été ouvert à la maison. Mm. Donc ouais, joyeux. Après, bon, les saisons, là, forcément, tu vois, on est en automne. Je pense à la saison des châtaignes. Donc tu vois, les châtaignes à la poêle sur le feu de bois... Trop bien, on vient de finir les pommes et c'est un autre goût, tu vois, les pommes acidulées que tu viens de cueillir dans le jardin, c'est quand même génial. Donc voilà, le goût de mon enfance, donc ouais, beaucoup de mouvements.
Ouais.
Après aussi, une autre parenthèse, mais donc on est 5 et ma sœur aînée, Céline, est handicapée. Donc aussi, c'était, finalement, moi j'étais la troisième, toujours très indépendante. Ma sœur Claire détestait l'école, donc il y avait ma maman qui s'occupait de Céline, qui était la plus compliquée, on va dire. Mon papa Claire et moi, c'est rigolo, mais très vite, petite, j'étais très autonome.
D'accord, donc t'es la troisième.
Ouais, je suis la troisième de 5. Et après, j'ai 6 ans d'écart avec Juliette. Et Luc et Juliette ont 1 an et demi d'écart. On a tous, tu vois, sauf le wagon entre Juliette et moi, 1 an et demi.
Donc un garçon.
Ouais, un garçon. Le dernier, la surprise.
La surprise, il doit adorer.
Très très bricoleur, très créatif, Luc, et très aussi très fin. C'est hyper drôle sa façon de tartiner. Une tartine, c'est rien à laisser au hasard. Il est hyper méticuleux, c'est hyper drôle.
Ah, c'est drôle cette position du cinquième du garçon dans un groupe de filles comme ça.
Mes parents avaient prévu que des noms de filles, et puis au dernier moment, on leur a dit il va falloir chercher des vrais garçons quand même.
Mais mince.
Et je pense qu'ils sont ravis, et puis nous aussi. Quoi.
Ouais, non, ça doit faire une chouette dynamique comme ça dans la famille.
Ouais.
Et donc toi, très autonome parmi cette grande famille.
Oui, c'est vrai qu'on parlait de mon parcours tout à l'heure. Scolaire, j'étais très autonome, ça se passait toujours assez bien pour moi à l'école, sans trop d'efforts. J'étais plutôt studieux, j'adorais lire. Et là où par contre, tu vois, il y a un tournant, c'est vrai que classe prépa, moi j'ai passé un bon moment.
Ah oui, c'est étonnant quand même.
École de commerce, je me suis beaucoup ennuyée. Enfin, en fait, c'est très bizarre le système français où t'as un moment classe prépa très intense et école où t'as peu de cours et en fait tout se passe bien sans faire grand chose. Où je me suis demandé carrément si j'arrêtais tout, je faisais une école d'architecte. Parce que, en fait, historiquement, j'avais envie de faire une école d'architecte alors qu'on me dise pas déboucher, leur fait une école de commerce. Et en entreprise, en fait, je suis passée par des très chouettes entreprises, mais je n'ai pas trouvé. J'ai pas vraiment trouvé ma voie, tu vois, il y a un bloquement où il manquait quelque chose. Et envie aussi, ce besoin aussi, je pense, de créativité.
D'accord.
Que j'ai pas trouvé, en fait, dans les chiffres. Et
que t'avais peut-être envie, avec l'architecture, d'explorer un peu.
Et je pense que ce côté créatif, en fait, je l'ai retrouvé en montant ma boîte. Et aussi, moi, ça me correspond très bien, quelque chose de pluridisciplinaire, où il faut être sur tous les fronts, qui a cette dynamique, où t'as... Ouais.
T'es au bon endroit, je crois, dans l'entrepreneuriat.
C'est ça. Tu veux gérer des problèmes ? Vas-y.
Ouais, voilà. C'est un jour un problème, voire une heure un problème.
Mais c'est là où, tu vois, je trouve... Enfin, moi, je conseillerais à des entrepreneurs qui veulent se lancer de choisir vraiment, en fait, un sujet qu'ils aiment, qui les passionne,
oui, parce que sinon, tu...
Ouais, et c'est ça, en fait, qui fait que tu traverses tout. Et où, au moment, en fait, où en fait, t'es aligné. Aujourd'hui, je me sens très alignée. Et aussi, c'est beaucoup de rencontres qui sont magiques, où... Mais je te citais Johanna, mais en fait, le nombre de rencontres que j'ai fait avec Carré Sauvage est assez dingue. Et quand t'as un alignement, je trouve que les choses se font, t'as une espèce de fluidité. Et en fait, si tu te prends une porte, ok, c'est peut-être pas le moment où il y a peut-être autre chose. Et faut avoir après aussi une certaine un optimisme, clairement, quand t'es entrepreneur et pragmatisme, ou regarder les choses, ce sur quoi tu peux avoir un... Moi, ma philosophie, c'est là où tu peux avoir un impact, go. Là où t'as pas un impact, typiquement, récemment, j'ai des surprises logistiques. Bon, tu fais ce qui est dans... dans ta mesure, dans t'as de l'impact, et le reste, tu passes, tu vas à autre chose, next.
Oui.
Et
tu peux pas te battre, de toute façon, contre ces choses-là.
Faut choisir.
Ouais. C'est combat.
Faut choisir ses batailles.
Ouais. Tu parles de créativité, et est-ce que dans ta marque, il y a aussi un côté manuel, je veux dire, est-ce que... Alors, je sais pas comment tu produis et comment t'as produit avant, s'il y a eu un changement. Est-ce qu'il y avait ce côté-là aussi ?
Totalement, c'est hyper manuel, et pour moi, c'est ce que je trouve qui fait aussi la beauté du produit, c'est la main de l'homme qui, mine de rien, en fait, a son jeu, en fait, de hasard, qui fait que chaque produit est unique. Là, la production sur toute la partie tablette, aujourd'hui, elle est à Savigny-sur-Orge, donc dans l'atelier d'un chocolatier Bintou Bar, que j'ai rencontré complètement par hasard, où en fait, moi, ce que j'ai fait, donc, c'est que je me suis formée au Bintou Bar avec Chloé Douffre-Roussel, donc c'est très niche, c'est vraiment... la fabrication du chocolat de la fève à la tablette. Donc c'est une référence, mais dans ce secteur. Et aussi avec Lorraine Lovat, qui a fait Plant Academy, qui est la gastronomie autour du végétal.
D'accord.
Donc là, c'est hyper intéressant, sur toute la partie, les fermentations, les plantes adaptogènes, les plus d'origine. hyper chouette d'avoir cet axe et c'est rigolo parce qu'encore une fois, c'est les pays anglo-saxons qui m'ont en premier dessus. Et donc, j'ai passé après aussi beaucoup de temps en production chez différents chocolatiers, chez des amis, chez des gens que je ne connaissais pas. Typiquement, l'un des lieux où je produis aujourd'hui, en fait, j'y suis allée, j'avais appelé la boutique parce qu'ils avaient une référence de chocolat cru, donc je faisais très simplement un benchmark.
Oui.
Je suis tombée sur le gérant, on a sympathisé, j'ai fait un stage chez eux.
D'accord.
Et de fil en aiguille, en fait, c'est le premier qui m'a suivi sur la production et chez qui je produis toujours. Et j'ai passé beaucoup de temps aussi en production. Le week-end, là-bas. Et moi, aujourd'hui, parce que, bon, en fait, de base, déjà, je ne suis pas supposée, d'un point de vue légal, être là-bas. Et parce qu'on s'est rodé, en fait, en organisation. Mais par contre, je fais toujours tous mes tests où, en fait, chaque recette, je l'ai fait. Et j'ai chez moi une petite conche qui me permet de faire mes batch tests.
D'accord.
Et ensuite, en fait, je transmets mes cahiers de recettes. Et une fois que l'équipe roule, elle roule. Après, tu peux toujours avoir des surprises en production, mais c'est tout un jeu d'ajustement et de partenariat où, mine de rien, là, je dirais, tu vois, qu'il nous a fallu 3 ans pour vraiment se roder, se connaître, rouler une organisation, anticiper. Et puis, t'apprends avec le temps. Chacun apprend, mais donc totalement. C'est une activité qui est hyper manuelle où je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais pour faire du chocolat en bean to bar, il faut plus de 72 heures. Le temps, en fait, de... t'as ta fève de cacao, tu... La broie, tu fais du gruet, donc tu récupères l'intérieur sans la peau. Ce gruet, ensuite, tu vas le broyer entre deux meules de pierre et ça prend à peu près 72 heures au moment. Donc, ça te fait une liqueur de chocolat, donc on va dire un cacao 100% comme du chocolat liquide. Au moment où tu veux fixer les arômes, tu ajoutes le sucre. Et donc, tout ce processus dure grosso modo 48 à 72 heures, selon aussi la quantité que tu produis. C'est un batch de 30, 80 kilos, qui sont grosso modo les batchs que je fais. Et ensuite, tu vas le couler. Et tout est fait à la main. Encore, tu vois, là, j'ai passé une étape où avant, on avait un moule unitaire. Maintenant, on a un moule sur lequel il y a 3 tablettes.
OK. Wow.
Mais donc, chaque tablette...
Triple ta cadence.
sont coulées 3 par 3. Et le topping, et quand il y a un topping, parce que parfois, moi, je mets de la pétale de rose, je mets des noix de pécan tossées avec du sel de melon, il est mis à la main.
Oui, donc c'est vraiment de l'artisanat, en fait.
100%.
Faut vraiment 100%. Se rendre compte.
Et le packaging, tu mets chaque tablette dans la pochette, tu fais une pochette avec un sticker, tu fais ton pliage, tu tamponnes la date.
Oui.
C'est très manuel.
Oui, donc il y a... Donc en gros, entre le début du process et
ce
la...
Ce qui a changé, c'est que je me suis fait entourer.
Ouais.
C'est que le grand jeu, en fait, de l'entrepreneur, c'est que dès que tu peux, en fait, tu recrutes. Et moi, pour le coup, je pense que c'est intéressant aussi pour d'autres entrepreneurs, beaucoup en freelance, parce que finalement, il y a toute cette équipe en production. J'ai ma graphiste qui est indispensable, parce qu'en fait, dans mon activité, j'ai beaucoup de sur-mesure, où je crée sur-mesure pour des marques, pour des lieux, ça peut être des signatures pour des hôtels, ça peut être pour une pâtisserie. Ça peut être donc en collaboration ou sur mesure pour une marque. Voilà, enfin, le champ est large. Donc ouais, ma graphiste Marie, qui fait des identités visuelles géniales, Magdalena, qui m'a rejoint en juin, qui est plus sur la partie digitale et qui est basée à l'étranger. Rencontre, merci Instagram.
D'accord. Ouais, ouais,
qui est un super atout pour l'équipe. Tu peux avoir des commerciaux. Et puis, en fait, petit à petit, en fait, même l'équipe de prod, elle a grandi parce que selon la production, les bouchers cacaotés, c'est quelqu'un d'autre avec qui on produit. Et tout est, j'allais dire, ouais, tout est le fruit de rencontres et de matchs, en fait. Parce que pour moi, faut à chaque fois, il y a deux choses. Il y a le coup de cœur pro dedans. Les compétences, c'est à l'humain qui est tout aussi important.
C'est quand même ton entreprise.
Ouais, et tu parlais.
Ton bébé.
Tu parlais, c'est vrai, tout à l'heure du crowdfunding, quelque chose qui est atypique aujourd'hui, c'est un sauvage. C'est qu'en fait, c'est que tout est autofinancé. En fait, j'ai fait un crowdfunding qui m'a ramené 10 000 euros avec lequel j'ai fait la première production. Et en fait, il n'y a pas d'investissement depuis. J'ai pas d'investisseur, j'ai pas d'aide bancaire. Je suis partie avec des économies stagiaires. Donc, autant dire, pas un grand pactole. Et donc, ça vraiment, ça tourne depuis avec ça en croissance organique. Et donc, forcément aussi, tu fais attention à ta gestion. Et je trouve que finalement aussi, quelque part, c'est une chance parce que c'est ce qui m'a forcé aussi à être plus créative. C'est de là dont sont parties les tablettes des muses où je demandais à une personnalité qui m'inspire, quel est ton chocolat idéal. Et on crée à demain. La partie sur des mesures pour des marques est devenue une signature où ça a commencé avec une première création pour MyCream et c'est devenu une signature. Et c'est assez intéressant parce que même sur, tu vois, j'ai des études plutôt marketing, mais en fait, quand j'ai commencé, j'avais pas envie de faire de marketing, j'avais envie que ce soit le produit, la beauté, le goût du produit qui te parle.
Ouais, qui te porte.
Et en fait, encore aujourd'hui, j'ai fait encore 0 ads, Facebook, Instagram, Google. C'est le bouche à oreille, un petit vieux comme le temps qui fonctionne. Et encore, et voilà, et à la fois, il y a une beauté, mais aussi une fragilité. Il faut faire attention et ouais, c'est un défi tous les jours.
Mais c'est bien, tu tiens le cap, et puis ça a l'air de bien fonctionner. Il y a plein de belles choses qui se... Voilà, donc la petite Laure, très indépendante, continue.
En fait, ce que je trouve rigolo, c'est que finalement, j'ai l'impression de m'être retrouvée, tu vois, comme j'étais enfant. Parce qu'on a parlé, tu m'as dit enfance, adolescence, et c'est vrai que l'adolescence, en fait, je me suis beaucoup gommée. En fait, il y a une période quand même très dure dans l'adolescence où on cherche beaucoup son identité, t'as envie d'être comme les autres, et typiquement, si on reparle de ma famille, typiquement, moi, quand je suis arrivée, je me souviens très bien de mon premier jour à Gerson, en primaire, où ma maman était ravie d'avoir mis une robe à smoke, sauf que toutes les filles étaient en jean, t-shirt. Tiens. Ok.
Ouais, donc voilà, ça y est, premier jour.
Et au lycée, en fait, j'étais hyper discrète. J'étais très. Tu vois, je me suis quelque part un peu perdue dans mon adolescence où il y a un peu du côté pétillant et tout, et de confiance en moi, en fait, qui s'est éteint, et que, en fait, c'est hyper drôle que paradoxalement, j'ai retrouvé avec une aventure entrepreneuriale. Alors que tu pourrais dire, tu te confrontes à plein de problèmes et tout, mais. Oui, en fait, c'est tu fais quelque chose que t'aimes, ces problèmes, tu les résous, tu es obligé de trouver des solutions. En fait, tu grandis.
C'est dans ton espace, en fait, aussi.
Et puis, t'apprends énormément, donc ça t'enrichit, tu grandis, et tu fais beaucoup de rencontres humaines qui sont géniales. Donc, je me trouve plus proche aujourd'hui, c'est assez drôle.
De l'enfant.
Et je sais pas si l'enfant intérieur dont on parle aujourd'hui, c'est le terme, typiquement, tu vois, le yoga, moi, c'est l'approche, mais je suis encore dans mon cercle proche wellness. Il y en a beaucoup, mais je suis encore. Tu vois, je suis encore plus, moi, dans les dynamos, les sports très dynamiques.
Ouais.
Mais c'est un mix. Après, tu vois, typiquement, quand tu cuisines, je trouve que c'est une forme aussi de méditation où tu prends un temps pour toi.
Oui, c'est pas forcément... La méditation, c'est pas forcément un moment où on se met en tailleur, assis par terre. Ça peut avoir plein d'autres façons de le faire. Et oui, cuisiner, marcher, faire du cycling chez Dynamo, c'est aussi une forme de... Lâcher prise.
Faire du vélib à Paris aussi, ça marche.
Oui, voilà. Il faut être en pleine conscience pour pour survivre. Donc, oui, c'est, y a pas forcément un protocole à suivre type. Et c'est chouette de se dire que l'entrepreneuriat t'a permis de retrouver la Laure créative qui voulait être architecte. Et oui, l'adolescence, c'est une période où soit on prend le... On décide de combattre, d'être dans un combat permanent, ou alors de sondre un peu dans la masse le temps que ça passe, quoi. Le temps que le homard reconstruit sa petite coquille, comme disait Dolto.
C'est mignon, l'allégorie du homard.
Oui, voilà. C'est Dolto qui dit que l'adolescence, c'est comme tu serais un homard qui aurait perdu sa coquille et qui doit s'en refaire une. Donc, le temps que tu n'as pas de coquille, t'es complètement à vif, tout nu, au fond de l'eau, quoi. Et c'est pas fun.
C'est vrai que c'est assez rigolo comme période où, justement, on a envie de se fondre dans la masse versus après, tu vois, une période aujourd'hui où, au contraire, c'est plutôt la singularité qui est prônée et t'as envie de t'affirmer.
Oui, mais voilà, c'est la construction, beaucoup de signaux contraires, hormonaux, qui arrivent. Enfin, voilà. Moi, j'ai un enfant de 15 ans, bientôt. Donc, je suis spectatrice de tout ça. Je ne sais pas s'il va écouter cet épisode ou plus tard, mais oui, c'est intéressant à regarder et à observer, même si on est quand même censé être un peu partie prenante. Donc, être guide.
En tant que parent, est-ce que tu te souviens de comment tu étais adolescent et comment est-ce que tu arrives à accompagner son enfant?
C'est pas évident parce que, en fait, alors là, on digresse complètement, mais tout a un impact en tant que parent de ce qu'on va dire, parfois des phrases qu'on pense être anodines ont un gros impact encore adulte. Et moi, je me rappelle de phrases quand j'étais ado. Donc, j'essaye de pas reproduire certaines choses. On fait toujours mal, de toute façon, mais on fait du mieux qu'on peut. Donc, essayer aussi valable pour l'entrepreneuriat. Au pire, on apprend, quoi.
Et puis tu l'as dit, en fait, c'est faire au mieux la règle.
Voilà. Et puis, au pire du pire du pire du pire, qu'est-ce qui peut se passer? C'était, je sais plus comment c'est, c'est Julia Chapon, la fondatrice de Yuka, je crois. Enfin, j'avais vu une fois comme ça une conférence, et quand elle disait, quand elle s'était lancée, je crois que c'est elle qui disait, elle s'était posé la question de au pire du pire du pire, qu'est-ce qui pouvait se passer, quoi.
Et ça, tu vois, pour ça, je trouve que les Américains sont très forts, et ça m'a beaucoup aidé aussi d'être partie à New York, parce qu'on a toute cette philosophie de l'échec qui est complètement différente de la philosophie française. On dit, si tu tombes, c'est pas grave, tu te relèves, tu iras plus loin.
Oui.
Et en fait, c'est totalement vrai, parce qu'à partir du moment où t'as plus peur de l'échec, c'est là où tu te donnes les chances de réussir, en fait.
Et c'est pas vraiment dans le mindset français, clairement pas. Enfin bon, donc on va revenir à un petit peu de gourmandise.
Prenons le truc de la gourmandise.
Voilà. Quel est ton premier souvenir sucré, vraiment, de petite fille?
Je t'ai dit les madeleines de ma grand-mère.
Ouais.
Et c'est hyper drôle en plus parce qu'elle cuisinait très peu. C'était plutôt mon grand-père maternel qui cuisinait. Mmh. Mais il y avait deux choses qu'elle faisait, les cakes et les madeleines. Elle les faisait extrêmement bien.
Et elles avaient... Donc, c'était des choses... T'allais fréquemment chez ta grand-mère et...
Quand j'étais petite, en fait, l'école primaire était juste en face de mes grands-parents maternels. Donc, souvent, c'était eux qui venaient nous récupérer après l'école. Mmh.
Trop chouette ce moment, ouais. Du coup, avec les grands-parents qui ont ce rôle d'éducation comme les parents, mais sans les trucs chiants, hein, généralement. Ils se permettent d'être plus cool. Et donc, les enfants, généralement, aiment bien aller chez les grands-parents pour ça, où on est un petit peu plus en liberté. Donc là, c'était les madeleines de ta grand-mère. Et ça t'évoque quoi, en fait, quand tu y repenses
Il y avait une texture qui était spéciale, parce que quand j'y pense, en fait, elles étaient un peu... Elle était dure, mais c'était un dur, tu vois, parce que souvent, la texture d'une madeleine, on s'attend à quelque chose de très mou, de très moelleux. Et là, elle était plutôt dure, mais sans être sec. Et je sais pas, je te dis, sûrement, elle mettait du rhum dedans, j'ai aucune idée de la recette. Mais il y avait un petit côté aussi, il y avait vraiment un arrière-goût, enfin, un goût de reviens-y.
D'accord. C'est peut-être le rhum, en effet. On donnait du rhum aux enfants, mais oui.
Il n'y a pas de souci. Ça s'évapore pendant la cuisson, tout va bien.
Oui, voilà. Non, en théorie, c'est vrai qu'on est à peu près safe, mais reste les arômes, en théorie. Bon, bah écoute, c'est très intéressant. Donc, effectivement, en amont, on a un petit peu parlé. On va passer à la deuxième partie. Après la théorie sur la dégustation, on va passer à la deuxième partie où, comme tu le sais, ou parfois j'ai encore des invités qui ont des surprises, mais toi, je sais que tu ne l'as pas parce que tu as déjà écouté des épisodes, où on va passer à la dégustation.
Alors, j'ai hâte.
Voilà. Il y a une partie pratique dans ce podcast et je suis ravie que tu es la première invitée à me dire que ton souvenir d'enfance, c'est la madeleine. Et donc, le titre de ce podcast prend tout son sens. Donc, tel Marcel Proust, toi, c'est la madeleine. Je ne sais pas si c'était pas avec la tasse de thé, je pense, parce que c'était petite.
Non, on n'avait pas le droit au thé.
Il n'y avait pas le thé avec.
Peut-être un chocolat chaud.
Voilà. Alors, comme on se le disait, ces madeleines sont des que je t'ai apportées. Donc, du coup, je te laisse les...
Je peux saisir les madeleines.
Voilà, saisis-toi des madeleines. Donc, ce sont des madeleines maison. Avec du sucre raffiné. Voilà.
J'adore. Et je vais te des confitures tout à l'heure.
Voilà.
Ah donc, là, elles sont trop mignonnes. C'est quand même beau, une madeleine. Tu vois, t'as la petite bosse, on dirait une petite madeleine, baleine. Tu vois, l'allégorie, elle est pas loin.
Ouais. Tu vois. Et c'est toujours un petit peu le stress. Tu la sens. Bon réflexe. Mais on voit la spécialiste de la gastronomie et des arômes.
Dis quand j'ai le droit de croquer.
Ouais. C'est toujours un peu un stress. Alors déjà, est-ce que ça ressemble aux madeleines de ta grand-mère ?
Alors, ma grand-mère n'était pas une grande cuisinière, comme je te disais. Elle était beaucoup dans ses affaires, donc elle cuisinait peu. Donc, je crois que elles n'étaient pas plates, les madeleines.
Elle n'avait pas la bosse.
Leur madeleine, si, il y avait quand même une bosse. Mais et puis, je ne sais pas, tu vois, en fait, c'est le souvenir de l'enfance, donc c'est un peu
c'est
flou.
C'est un peu flou, quand même. Ouais.
Je croque.
Oui, vas-y.
J'adore ce genre de mise en pratique, quand tu veux.
Et alors, pendant que tu dégustes... Donc, elle est assez ferme. Hein. J'étais un peu rassurée que tu me dises que les madeleines de ta grand-mère étaient un peu fermes, parce que quand moi, je les ai goûtées, parce que je suis une professionnelle, je goûte ce que je fais, je me suis dit qu'elles sont quand même un peu fermes. Mm. Voilà. Alors, c'est la recette de Christophe Felder, grand chef pâtissier, qui a écrit un livre qui s'appelle Pâtisserie, qui est vraiment une référence. Et quand je cherche une recette... une valeur sûre, je vais vers lui. J'ai eu très, très peur qu'elles ne fassent pas de bosse. Elles en ont fait par miracle. Ça vient un peu du choc thermique dans le four. Ouais. Mais alors, comment tu trouves ?
C'est très, très bon. Et je pense qu'il y a un truc que je reconnais aussi de ma grand-mère, le côté beurré. Et il y a un petit point de sel, non ?
Alors, non, je n'ai pas mis de sel. En fait, la particularité des madeleines dans la recette, c'est que tu travailles avec un beurre noisette. Donc, c'est un beurre que tu fais fondre jusqu'à évaporer en fait une bonne partie de l'eau qui est contenue dans le beurre. Et on dit, la particularité, c'est que le beurre, quand tu le fais au début, le beurre en ébullition fait du bruit avec les petites bulles pendant que l'eau s'évapore. Donc, on dit qu'il chante. Et une fois que le beurre s'arrête de chanter, et c'est vraiment ça le terme en pâtisserie, et une fois qu'il s'arrête de chanter, on attend encore un petit peu, on continue de chauffer, et là, en fait, on commence à avoir des petites particules brunes, beige, et ça a vraiment une odeur de noisette. Et c'est ça qu'on met ensuite dans les madeleines. Donc,
ça fait la différence. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a un côté où la pâte sur le dessus est un peu plus fondant. Mm. Ça, c'est délicieux. Ouais.
Bon, alors, et il n'y a pas trop de sucre, hein, je dois dire. Je crois que...
Non, mais écoute, tout va bien jusqu'ici.
Tu n'es pas tombé. Il doit y avoir 90 grammes de sucre pour 180 grammes de farine. Donc, c'est pas un 4 quarts, du coup.
Non, c'est très bon. C'est très bon. Et c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais ma grand-mère a des origines bretonnes, d'où, sûrement.
Ah, le beurre. Le beurre. Ouais, et c'est peut-être pour ça qu'il y avait une petite pointe de sel, peut-être aussi, dans celle de ta grand-mère.
Tu penses que ça, c'est mon goût d'aujourd'hui où j'ai tendance à aller sur le beurre salé.
Bah, c'est un exhausteur de goût. Ça permet aussi de remettre parfois un peu les papilles à zéro, un petit peu de sel dans une lignée de sucre. Donc, c'est intéressant en pâtisserie.
Marion, je te rassure, tes madeleines sont délicieuses.
Voilà. Bon, ouf. Bon, écoute, je suis contente. Ça t'évoque quoi, du coup, quand tu les goûtes, ces madeleines? Ça te renvoie
où? C'est enveloppant. Il y a un côté réconfortant. Et c'est vrai que les madeleines, même, tu vois, ma grand-mère, ma maman en fait beaucoup aussi aujourd'hui. Donc là, j'ai l'impression aussi d'être aussi bien dans l'enfance qu'un petit déjeuner à la campagne, le week-end. C'est un truc que tu retrouves beaucoup aussi dans les goûters quand t'es un enfant.
C'est facile, comme pâtisserie.
C'est assez chouette. Et c'est vrai que tout de suite, quand tu renvoies à l'enfance, si t'as une période de l'innocence, du jeu, ou aussi un truc très fort qu'on appelle aujourd'hui, c'est que le temps, on n'a pas la notion du temps. Le temps n'a pas de limite. Le temps, c'est le temps que tu décides. Et ça, c'est un truc aussi que parfois, j'ai envie de retrouver aujourd'hui et que... et c'est important de réussir à s'accorder des moments de temps où justement tu comptes pas le temps. J'ai ma montre Garmin qui sonne.
Et voilà, et le temps a décidé de t'envoyer un signe, je crois. Genre quoi? Comment ça tu ne comptes plus le temps?
Mais c'est vrai, tu vois.
C'est une pause.
Parce que je trouve qu'aujourd'hui, la sensation d'être dans une accélération du temps, où parfois c'est parce qu'on te dit tu fais beaucoup de choses, t'es passé dans des trucs, ou est-ce que c'est parce que t'anticipes? Mais c'est drôle comme quoi le temps qui est pourtant le même n'avait pas la même durée, je trouve, quand on était enfant versus aujourd'hui, et où parfois tu te dis justement, tu vois, et puis les gens te disent plus tu vieillis, plus le temps s'accélère.
Non, mais c'est vrai. Je sais pas si
d'avoir cette sensation. Donc est-ce que tu vois, j'ai pris bam 90 ans d'un coup.
Non, je sais pas. Je me suis toujours fait la réflexion que le collège, ça dure 4 ans. Et moi, j'avais l'impression, quand j'étais ado, que ça a duré hyper longtemps, cette période. Et c'était chouette. Et qu'après, effectivement, ça s'est vraiment accéléré et qu'aujourd'hui, là, tu te dis, le Covid, c'était il y a 3 ans et demi. Mais on a l'impression quand même que c'était un peu hier.
C'est vrai.
Tu vois? Or, il s'est quand même passé 3 ans et demi, donc ça ouais, c'est vrai qu'on... C'est un peu triste. En vieillissant, ça s'accélère. Et oui, on fait des choses qu'on ne faisait pas avant. Ramener des petites madeleines dans un papier alu. Et voilà, mais bon, c'est bien ce que tu dis de revenir de temps en temps à faire une pause.
Je pense que c'est important, justement, prendre ces temps et que c'est salvateur. C'est un agenda qui est assez chargé, une vie active, d'avoir des moments où même tu lis, tu vois, moi j'aime toujours autant lire.
Ouais, ou tu t'ennuies aussi, ça peut être sympa de s'ennuyer.
Ouais, on oublie de prendre du temps pour s'ennuyer. Mais ouais, simplement lire, pour moi c'est un autre espace-temps, tu vois, tu prends un roman, t'es dans un autre monde, tu coupes. Le sport, pour moi c'est vital.
T'arrives à couper ton cerveau quand tu fais du sport?
Ouais, mais ça, tu vois, pour le coup, c'est parce que je dis ça plus quand je fais un sport cardio, finalement, que yoga, méditation, tu vois.
C'est très difficile. Je trouve aussi que mais ça, c'est très personnel, mais je trouve aussi que c'est le seul moment où on déconnecte complètement. Peut-être parce que t'es en mode survie et que ton corps se dit juste, OK, qu'est-ce qu'elle est en train de m'infliger?
Oui, mais c'est vrai, toutes les deux, quand tu cours, t'es obligé de te concentrer sur ta respiration. Si jamais t'es stressé, tu pars courir, ça te permet de relâcher parce que t'as besoin de respirer.
Tu dois respirer,
Comment tu reprends ton rythme naturel?
Et puis, t'as mal à différents endroits, donc du coup, tu penses à ça et pas forcément... Ouais, non, c'est vrai que c'est les rares moments, et je pense qu'il y a pas mal de gens comme ça. J'avais vu une conférence de Thierry Marx, où il expliquait justement, c'était le sport, sa méditation. C'était pas se poser, c'était faire un sport cardio, ce genre de choses.
Et puis après, t'as l'effet aussi endorphine.
Oui, merci les endorphines. Tu fais pas du chocolat aux endorphines encore?
Mais le cacao, c'est un précurseur d'endorphines, tout va bien.
Voilà. Moi, je pense qu'on est bon. Donc, chacun sa petite dose. Tu recommandes quelle dose de chocolat par jour pour aller bien?
Non, mais ça, c'est variable. C'est très personnel. C'est la dose de chacun, en fait. Y a pas de dose. Si j'ai envie, moi, ça peut m'arriver très bien un jour de me prendre une tablette entière, peut-être moins d'autres. Mais donc c'est chacun.
Chacun ajuste sa bonne dose. Donc écoute, il te reste des petites madeleines pour t'en goûter.
C'est parfait. C'est parfait, tu vois, j'avais pas encore eu le temps de prendre le petit jeu aujourd'hui, donc
voilà.
Mais j'avoue que je comptais sur toi.
Heureusement que j'en ai pas ramené qu'une. Mais bon, écoute,
je savais, mais c'est délicieux. Bravo. Bon,
écoute, merci beaucoup. En tout cas, je suis contente aussi que tu aies commencé par la sentir, parce que moi, c'est ce que j'essaye de faire avec la pâtissologie, c'est que de faire en sorte qu'on se pose sur la dégustation et qu'on prenne le temps déjà de la regarder, de la sentir, de voir aussi les textures. Et tu l'as bien fait instinctivement, donc bravo pour ça. Maintenant, avant de passer au traditionnel, et tu peux remanger une madeleine si tu veux. Est-ce que tu pourrais me décrire, alors on en a un petit peu parlé rapidement, mais ton moment idéal de dégustation d'un gâteau? Alors pas forcément là une madeleine, etc., mais vraiment, ça peut aussi être dans un restaurant, ça peut être plein de choses. Là, si je te dis, on va où tu veux déguster, faire une dégustation sucrée, ce serait quoi, avec qui?
Moment ou lieu ou entourage?
Tout ça.
Mais c'est vrai que tous les paramètres jouent, aussi bien l'environnement, la pièce, le lieu, que ton entourage. Idéalement, quand tu dégustes, faut pas être stressé, faut être là à ta dégustation. Donc je dirais le lieu, une ambiance un peu enveloppante, cosy, chaleureuse. L'entourage, soit t'as les deux en fait, soit avec des amis, des gens que t'aimes, la famille, ou soit seul, parce que t'as ce truc seul où tu peux aussi te concentrer en fait sur ce que tu manges, vraiment observer c'est quoi la couleur, la forme, l'odeur. Versus, c'est vrai que quand t'es dans le manger social, logiquement tu te concentres sur l'autre et tu fais pas forcément attention à ce que tu manges. Et en même temps, t'as ce côté convivial où t'es dans un moment justement hyper relaxé, hyper détendu, hyper agréable, où tu prends un plaisir fou à manger. Mais en fait, il y a plein de moments, parce qu'il y a aussi après le sport, quand t'as faim, tes sens sont accrus, tu sens encore plus les goûts.
Si tu devais choisir,
je vais être sociale aujourd'hui.
D'accord, avec des gens.
Donc, dans un moment cosy, là, on est en automne, donc à côté d'un feu de cheminée, une grande tablée, avec des gens que j'aime, et du coup, donc une bonne pâtisserie.
Avec du sucre non raffiné.
Par Johanna Le Pape.
Ouais, voilà, c'est Johanna Le Pape qui serait venue t'apporter une pâtisserie de sa création. Ça, c'est vraiment pas mal. Si elle nous écoute, même si je pense qu'elle est un petit peu loin de nous, peut-être
écoute,
en ce moment.
Écoute, elle est encore pas loin, là, tu vois. D'accord. Elle est à Paris, mais il y a un projet LA.
Oui, de ce que j'ai cru comprendre.
Donc, donc profites-en, c'est maintenant.
C'est maintenant. Voilà, bon, en tout cas, ce serait ça ton moment, et en bonne compagnie avec un bon dessert. Eh bien, écoute, c'est noté. J'espère que.
C'est le plan, c'est le prochain plan, c'est ça. C'est la prochaine invitation, Marion.
J'aimerais pouvoir, tu vois, que ce soit un énorme succès, ce podcast, avoir un super sponsor qui permette de réaliser les moments idéaux de mes invités. Il y a de l'idée. Écoute, je te dis rien si ça se concrétise. Écoute, on va passer maintenant à la troisième partie, c'est-à-dire les questions ping-pong, où là, je te demande de réfléchir un petit peu moins et de me répondre un peu du tac au tac. Donc, ton gâteau préféré aujourd'hui?
Fondant au chocolat.
Avec, du coup...
Du carré sauvage dedans. Voilà. Ouais, mais moi, j'aime mes blocs.
Ah oui, toi, t'es pas obligé de prendre les petites tablettes. Celui que tu réussis le mieux?
Le mien, mais alors le dernier que j'ai fait, il est hyper simple, comme on est en automne, c'est à la châtaigne. 500 grammes de châtaigne, 100 grammes de chocolat. Le dernier, j'ai mis du cacao, du chocolat 100%, donc on le sentait bien. Et 3 œufs, 35 minutes, je te donne une recette complète.
Voilà.
35 minutes à 150 degrés au four. Vous pouvez ajouter un peu de cannelle, les épices que vous voulez, mais juste avec très simple, trois ingrédients. Et
donc 500 grammes de châtaigne de...
500 grammes de purée.
Purée de châtaigne.
Alors attention, parce que justement, tu vois, j'ai essayé...
Pas de la crème de marron.
Si, crème de marron, mais enfin, une bonne crème de marron. Mais justement, parce que moi, j'ai essayé de faire la version avec des châtaignes cuites et ajouter un petit rat de sirop d'érable ou autre. Mais en fait, c'était moins bon en texture. Donc, j'ai voulu être puriste, mais ça sert à rien. Prenez la recette très pratique.
D'accord.
La purée de châtaigne, donc qui est déjà sucrée, avec un sucre non raffiné.
Je sais pas si ça se trouve
en magasin bio, ouais, ça se trouve facilement.
Okay,
en magasin bio, mais en soi, vous prenez la traditionnelle purée de marron, ça marche très bien aussi.
Oui.
Donc 500 grammes de purée de châtaigne ou marron. Enfin voilà, la purée qui est déjà crémeuse qu'on mange à la petite cuillère. 100 grammes de chocolat, 3 œufs. Vous faites fondre le chocolat au bain-marie, vous battez avec la purée, vous ajoutez les œufs.
Et au fond,
5 minutes à 150 degrés. Et c'est délicieux et c'est encore meilleur. Le lendemain, vous pouvez laisser la nuit au réfrigérateur. Voilà.
D'accord. Eh bien, super. C'est la première à nous livrer une recette comme ça en live. Trop bien. Ton parfum, ta saveur préférée?
La figue.
T'as pas dit le chocolat?
Non, ouais. La figue, c'est un parfum que j'adore.
Ouais. Et est-ce que tu avais goûté, du coup, la glace aux feuilles de figuier?
Évidemment. Elle était délicieuse.
Ouais, c'était incroyable, ça. C'était à Food Temple et je mettrai le nom du glacier qui vient de Vannes. Qui fait ces glaces qui sont incroyables. Donc ça, on mettra aussi dans les notes de l'épisode. Le meilleur repas de ta vie? Celui qui t'a procuré le plus d'émotions?
Waouh. Dur comme question. Il y a un chef qui s'appelle Sébastien, qui a repris l'auberge de la Bonne Idée à Saint-Jean-en-Bois.
Donc,
qui est dans la maison de... et qui en a fait un restaurant étoilé. Lui, avant, il était au Petit Nice.
Paseda à Marseille.
Exactement, c'était le second Paseda. Et donc, Sébastien a repris l'auberge de Saint-Jean-Bois et a ouvert sa propre maison. Et la première fois que j'y suis allée, c'était super bon. En plus, bah, c'est une histoire encore particulière parce que c'était, moi, je l'avais rencontré via le village et via le chocolat où on avait commencé à travailler ensemble et il m'avait beaucoup encouragée.
Et donc, ce restaurant s'appelle comment ?
S'appelle l'Auberge à la Bonne Idée.
D'accord.
Okay. Une bonne idée, tu vois, c'est facile à revenir. Ouais. Et puis, Saint-Jean-en-Bois, c'est un petit village, il y a un café, un restaurant, vous ne pouvez pas vous tromper.
Ouais, super.
C'est au milieu de la forêt. Et oui, et le premier dîner qu'il avait fait, on est allé avec une amie, c'était incroyable en plus. Bah, je pense qu'on était hors carte. Mais cuisine hyper goûtue, hyper... Bah, c'est au milieu de la forêt, donc là, il y avait aussi du gibier. Mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il travaille beaucoup aussi avec les extractions de jus. Parfois aussi, j'ai l'impression de parler à une naturopathe dans le sens où il connaît plein de trucs et hyper curieux. Enfin, mais après, c'est des rythmes de dingue. Les gastros, ils se lèvent hyper tôt, ils se couchent hyper tard et des grands passionnés. Mais je trouve ça génial parce qu'on part dans des histoires de producteurs, des essais, avec tout un raffinement, enfin, je trouve ça génial. Donc,
super.
Gros coup de cœur et adresse que je recommande vivement.
Ok, ben, ce sera noté. Ta pâtisserie favorite, le lieu, en fait, la boutique.
Je vais dire tapisserie.
Bah ouais, on a bien. La pâtisserie du restaurant Septime, en fait.
Exactement, et il y a Clamato aussi autour des huîtres, des fruits de mer, du poisson qui est délicieux.
Donc ouais, très bonne adresse tapisserie, on mettra ça aussi. Au resto, t'es plutôt entrée plat ou plat dessert ?
Souvent entrée plat au restaurant. Et oui. Il y a un dessert à la maison, t'inquiète pas.
Ça va. Le clafoutis avec ou sans les noyaux ?
Sans.
Pain au chocolat ou chocolatine ?
Pain au chocolat.
Chocolat noir ou chocolat au lait ?
Chocolat noir.
Obligé. En pâtisserie, recette traditionnelle ou recette revisitée ?
Revisiter, quoique en traditionnel, tu peux avoir des très bons. Pour moi, c'est vraiment, en fait, c'est les ingrédients qui font la différence.
Oui, donc toi, tu revisites avec les ingrédients. Ça pourrait être ça un peu.
Oui, déjà aussi. Ouais.
Texture croquante ou texture moelleuse ?
Dur aussi, croquant, allez.
Bon, chocolat ou fruits ?
Chocolat.
Non, en vrai, j'aime pas. Le meilleur pâtissier ou top chef ?
Top chef.
Galette frangipane ou brioche des rois ?
Galette frangipane.
Team amande.
Ouais, ah oui.
Gâteau basque, crème ou cerise ?
Crème.
Bah, c'est tradi, hein ?
Ouais.
Il y a le côté terroir.
Terroir.
Pâte feuilletée ou pâte sablée ?
Sablée.
Le beurre.
Le beurre.
Bon, il y en a aussi dans la pâte feuilletée, hein, mais... Beurre doux ou beurre demi-sel ?
Demi-sel.
Demi-sel. Espresso ou café de spécialité ?
Café de spécialité, mais encore que moi, je suis peu café, je fous tout.
Nutella ou nocciolata ?
Nocciolata et la pâte tartinée maison, encore mieux.
Ouais. Et si toi, tu étais une pâtisserie ?
Alors, j'allais dire la framboise, mais c'est pas une réponse.
Non.
C'est quoi un framboisier ? Ça doit exister, non ?
Et pourquoi un framboisier, alors ?
Il y a le fraisier, donc il doit avoir le framboisier.
Oui.
C'est mon fruit depuis tout petit, tu vois. Ma mère te dira, le premier truc que j'attrapais en sortant de l'école, ou même pas avant la maternelle, crèche, c'était le paquet de framboises. Ils ont été très cool parce que j'avais le droit tous les soirs presque à mon paquet de framboises.
Ouais, c'est un budget, quand même.
je pense que j'étais un budget framboise à moi toute seule.
T'as un pull couleur framboise aujourd'hui.
En plus.
T'as vu ça ?
Et toi aussi.
Et ouais, c'était le thème.
Encore plus framboise. C'est clair. Donc ça existe ou pas le framboisier ?
Oui, ça existe. Voilà. D'accord. Donc un entremets aux framboises.
Franchement, ça sonne très 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 bon. Si quelqu'un a une bonne adresse, j'y vais.
Et alors là, comme ça, et en plus c'est pas du tout la saison.
Non,
donc,
mais je vais bien retourner quand ce sera la saison.
Ouais, on va réfléchir. Bon, mais écoute, merci beaucoup pour ce ping-pong. Ma dernière question, c'est toujours la même. C'est de savoir si dans ton cercle d'amis, de proches, tu aurais quelqu'un à me conseiller pour faire un épisode.
Joanna Le Pape.
Sachant que j'ai quand même un cahier des charges, c'est que généralement je n'interview pas de chef.
Ah.
Mais je me mets un peu des bâtons dans les roues. Mais bon, je ne suis pas fermée quand même à la discussion. Donc Joanna Le Pape, potentiellement.
Je pense à quelqu'un d'autre qui est dans le vin, donc plus différent. Je pense à Raphaëlla, à Yacon & Co, qui est dans le style de Yacon. Ça peut être intéressant.
Ça va pas m'aider sur le sucre.
Non, ça va pas t'aider du tout sur le sucre. Mais qui a dit que le sucre...
Voilà, sur les autres sucres.
Autres sucres font partie de la pâtisserie, non ?
Oui, c'est vrai. Mais c'est pas ce qu'on t'apprend au CAP, hein, malheureusement. Alors, je sais qu'il y a...
C'est pour ça que j'ai pas fait de ça.
Ouais. Je sais qu'il y a des... Maintenant, il y a certaines écoles, type Ferrandi, couvrent un peu leur chakra sur d'autres choses que le sucre raffiné. mais c'est vraiment pas généralisé. Et puis le CAP, c'est quand même vraiment les bases.
Ouais.
Donc on t'apprend pas l'inventivité forcément dans ces choses-là. En tout cas, moi qui l'ai fait en candidat libre avec des vidéos, des choses comme ça, c'est pas ce sur quoi tu vas être interrogé. Tu vas être interrogé sur des trucs extrêmement classiques, des crèmes pâtissières avec du sucre et voilà. Donc, mais ça va évoluer forcément puisque les consommateurs vont évoluer.
Je réfléchis en invité, mais c'est vrai que en retirant le paramètre chef, c'est compliqué.
Va falloir. Alors j'essaie. Je me ferme pas totalement, mais j'aimerais bien trouver un angle pour pas refaire ce qui est déjà fait. Ouais. Il y a des podcasts très bien où ils interviewent des chefs. Ouais. Et donc voilà, il faut qu'il y ait un angle, potentiellement un trio. Enfin, je sais pas. Je réfléchis. Mais je
peux réfléchir à te dire plus tard des suggestions.
Oui, voilà, avec plaisir. Et en tous les cas, on reparle encore une fois de Johanna Le Pape parce que c'est vraiment chouette ce qu'elle fait. Elle a une super démarche et il y a beaucoup d'inventivité.
Ouais. Mmh. Je peux finir sur un spoiler parce que j'ai dit tout à l'heure que je m'en parlais et j'en ai pas parlé.
Vas-y, spoiler alert.
Non, dans les tablettes, tu parlais des créations. Et la dernière qui sort ce week-end, c'est avec Tiffany Buell, qui est une artiste franco-japonaise. Et ce sera autour du thé au Jisha, qui est un thé brun avec des petites saveurs de pain grillé noisette. Et c'est un chocolat qui est noir, chandouja / lacté. Il y a de la purée d'amande blanche dedans.
D'accord.
Donc c'est purée d'amande blanche au Jisha, la fève de cacao évidemment. Et topping, again.
D'accord.
Et avec du sésame noir torréfié. Voilà, donc on part au Japon.
D'accord, super intéressant. Donc, dans les notes de l'épisode, je mettrai tous les liens vers tes réseaux sociaux, etc., le site, pour que les gens puissent découvrir ton chocolat, Carré Sauvage. Et puis, s'ils veulent te contacter, c'est Instagram, LinkedIn.
Sur Instagram, c'est moi qui réponds, sur LinkedIn, Lormane Essier. Donc, avec plaisir.
Génial. Eh bien, écoute, avis aux gourmands. Je te remercie beaucoup, Laure, pour cet échange. Et puis maintenant, tu vas pouvoir attaquer la troisième Madeleine.
Oh, oui.
La deuxième Madeleine.
Merci beaucoup, Marie.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
J'espère que cet épisode vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré et donné l'eau à la bouche. Vous pouvez retrouver mon invité sur ses réseaux sociaux. Tout est indiqué dans les notes de l'épisode. Pour recevoir la recette de la spécialité dégustée, abonnez-vous à la newsletter sucrée d'Honoré en bas de page du site honorevousguide.fr. Pour que je puisse vous proposer toujours plus de personnalités inspirantes, aidez-moi à rendre visible le podcast La Madeleine sur les plateformes en laissant un avis 5 étoiles. Et bien sûr, parlez-en autour de vous. Il y a forcément beaucoup de gourmands. Merci beaucoup. Et enfin, si vous souhaitez échanger avec moi sur le podcast, la pâtisserie ou autre, rendez-vous sur Instagram, sur le compte Honorez-vous Guide. À très vite.